France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Dans les laboratoires, les chercheurs eux-mêmes appellent de plus en plus à la décroissance, un ralentissement du rythme de la production scientifique. Pourquoi remettre en question ce productivisme ? C'est un premier constat facile à faire. La recherche obéit à un impératif de productivité délétère. C'est le fameux « publish or perish », publier ou périr, cette course effrénée à la multiplication des articles qui entraîne une détérioration de la qualité même du travail académique. Autre constat, face à l'urgence climatique, aucune activité n'échappe à la question de son impact carbone, pas même les sciences. En astronomie, par exemple, au lieu de construire de nouveaux télescopes, pourquoi ne pas exploiter d'abord les données déjà accumulées ? En somme, c'est faire moins, mais mieux, et l'idée gagne du terrain. Recherche, l'appel à la décroissance. Nicolas Chevassieux-Louis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste scientifique et vous venez de publier aux éditions Agone Décroissance. François Grainer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biophysicien, chercheur au laboratoire Matières et Systèmes Complexes CNRS à l'Université de Paris-Cité et vous êtes aussi l'auteur du texte « Faut-il interdire la recherche publiée dans pièces et main-d'œuvre ?» Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ici dans nos studios sur France Culture et puis merci également à vous qui êtes là au rendez-vous en direct ou à toute heure en podcast. Vous pouvez également suivre cette émission en nous rejoignant sur Blue Sky. Nous postons pour vous tous les jours, inlassablement, de nombreuses ressources et c'est à retrouver sur notre compte @sciencecqfd. Alors, dans quelle mesure la recherche est-elle associée à la croissance et pourquoi devrait-elle ralentir et comment peut-elle s'adapter aux contraintes imposées par la crise climatique et aux contraintes de la biodiversité? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, décroissance, Nicolas Chevassieux-Louis, c'est un terme forgé par le biologiste Jacques Testard, mais que désigne-t-il précisément ?
On peut y mettre deux sens. Le premier, c'est la nécessité d'organiser une réduction de l'activité de recherche scientifique, quantitativement. Et le second sens, c'est de chercher ce qui devrait demeurer de l'activité de recherche de nouveaux savoirs dans une société en décroissance, que je pense François Grainer et moi aspirons de nos voeux, et je l'espère aussi de nombreux autres auditeurs.
Oui, comme nous sommes en janvier, nous, c'est tout encore le moment de se souhaiter ces voeux. François Grainer, comment vous compléterez cette définition ?
Je faudrait déjà préciser peut-être de mon côté ce que c'est que la décroissance. Enfin, comment, il y a beaucoup de définitions, mais je dirais que c'est une diminution de tout ce qui est la taille, la vitesse des activités humaines, diminue aussi les inégalités. Dans le but d'avoir une société qui ait plus de liens et moins d'empreintes, de consommation d'énergie, de matière et d'empreintes sur l'environnement.
Alors décroissance, c'est un terme dont on entend de plus en plus parler, comme je disais dans mon introduction, dans mon chapeau, comme on dit à la radio. Le 27 janvier 1972, le mathématicien Alexandre Grothendieck prononçait au CERN, le Centre Européen pour la Recherche Nucléaire, une conférence intitulée « Allons-nous continuer la recherche scientifique ?» Voici sa réponse.
Je suis un mathématicien. J'ai consacré la plus grande partie de mon existence à faire de la recherche mathématique. Et en fait, en ce qui concerne la recherche mathématique, celle que j'ai faite et celle qu'ont fait les collègues avec lesquels j'ai été en contact semblait très éloignée de toute espèce d'application pratique. Et pour cette raison, je me sentais pendant longtemps particulièrement peu enclin à me poser des questions sur les tenants aboutissants, en particulier sur l'impact social de cette recherche scientifique. Et ce n'est qu'à une date assez récente, depuis 2 ans, que j'ai commencé, comme ça progressivement, à me poser des questions à ce sujet, et que je suis arrivé à une position depuis un an et demi, en fait, j'ai abandonné toute espèce de recherche scientifique. Je pense qu'à l'avenir, je n'en ferai que le strict nécessaire pour pouvoir subvenir à ma subsistance, puisque, jusqu'à nouvel ordre, je n'ai pas d'autre métier que celui de mathématicien.
Voilà un extrait de la conférence au CERN en 1972. Nicolas Chevassieux-Louis, pourquoi l'un des plus grands mathématiciens du siècle dernier a-t-il décidé d'abandonner la recherche scientifique et la recherche en mathématiques ?
Mais pour Alexandre Grothendieck, c'était suite à la découverte que le laboratoire dans lequel il travaillait était pour partie financé par les militaires, ce qui pour Alexandre Grothendieck était moralement totalement impensable.
Vous aussi, François Gernin, vous êtes penché sur ces questions, puisque votre texte « Faut-il interdire la recherche ?» a été publié à l'occasion de ce 50e anniversaire de cette conférence.
Oui, et la question qui se posait, c'est est-ce qu'elle était toujours d'actualité? Et en fait, cette question, elle a traversé le siècle, elle n'est pas née avec Rothendieck. Nicolas a fait des recherches sur un petit peu l'origine de cette question. Et elle a aussi beaucoup persévéré maintenant, cette question. Actuellement, on focalise beaucoup plus sur la question. La recherche est un moteur de la croissance. La croissance semble être la source principale de nos problèmes. Donc, est-ce que ça veut dire que la recherche est une des sources principales de nos problèmes?
Alors du coup, vous, en tant que chercheur, François Gernin, la question de déserter la recherche, ça s'est posé pour vous?
Oui, c'est une question que je me pose de temps en temps. Il y a plusieurs... À la fois, il y a aussi des très bonnes raisons de faire de la recherche. Je pourrais parler pendant longtemps des raisons très positives de faire de la recherche, à la fois pour les individus et pour la collectivité. Il se trouve que après avoir beaucoup discuté avec des gens qui ont déserté ou des gens qui n'ont pas déserté, j'ai conclu que il valait mieux, vu mon vécu, mon état de carrière, il valait mieux que j'essaye de faire bouger des choses de l'intérieur, faire discuter, changer des pratiques, donner des exemples, transmettre à mes étudiants, et que c'est comme ça que je me sens. Je dirais pas cohérent parce que personne n'est cohérent, mais au moins un peu
légitime.
Plus en équilibre, et plus peut-être plus utile. Voilà.
Votre point de vue, Nicolas Chavassiou-Louis, sur cette question de la désertion de la recherche?
Moi, je n'ai pas exprimé un point de vue là-dessus. Je suis un observateur de la recherche. Donc, à chacun de faire son choix éthique et moral. Comme observateur, je peux constater, en revanche, que le nombre de démissions du CNRS n'a jamais été aussi élevé depuis l'existence du CNRS.
Alors là, parce que dans votre récent ouvrage, Nicolas Chavassiou-Louis, vous appelez surtout à une meilleure régulation de la recherche et non pas à son abandon, comme jadis Grothendieck. Vous invitez à une décroissance des activités scientifiques pour plusieurs raisons. La science est au service de la croissance, la recherche est entrée dans une logique productiviste et les activités de recherche sont source de pollution et d'émissions de carbone. Alors sur le premier point, la science au service de la croissance, vous dites que la recherche scientifique aujourd'hui est devenue un pilier de la croissance plus que de la connaissance.
Oui, une des meilleures manières d'avoir une vue d'ensemble de ce qu'est la recherche scientifique, c'est le rapport que fait l'UNESCO, le World Science Report de l'UNESCO, et qui, la dernière édition est de 2020, et qui comptabilisait l'ensemble des publications scientifiques sur le monde entier, pour les années 2018 et 2019. On comptabilisait alors 175 000 publications relatives à l'intelligence artificielle et à la robotique et 6500 relatives aux virus émergents. Un an après, survenait la pandémie. Qu'est-ce qui était le plus urgent? L'intelligence artificielle et la robotique ou l'étude des virus émergents?
En effet, ce rapport de l'UNESCO, selon ce rapport, seuls 12% des publications scientifiques mondiales portaient sur des sujets pouvant d'une manière ou d'une autre servir à faire progresser les objectifs de développement durable adoptés par l'ONU. Ça signifie, François Gernin, que l'essentiel de la recherche n'est pas au service du développement durable?
Alors, plusieurs choses. D'abord, une des choses qui caractérise la recherche, c'est l'imprévisibilité des retombées. C'est très difficile de prévoir. Quand vous pouvez avoir un résultat qui est issu d'une recherche qui est motivée par une volonté d'application, motivée par une curiosité, ou en général d'ailleurs motivée par les deux. Le financeur et le chercheur peuvent avoir des motivations différentes. Mais de toute façon, une fois que vous avez un résultat sur la table, il est là et il peut servir à plein de choses différentes et vous pouvez pas du tout prévoir ce que vous allez appeler des retombées positives, ce que vous allez appeler des retombées négatives. Voilà. Par ailleurs, la recherche n'est pas au service de quelque chose, mais simplement les financeurs en attendent des retombées. Ils en attendent des retombées en termes de croissance. Les agences de notation incluent les dépenses de recherche dans les critères leur permettant d'essayer d'anticiper la croissance d'un pays. Et donc, du point de vue des financeurs, c'est très et des décideurs politiques, le président Macron l'a rappelé, c'est ça qu'ils attendent des chercheurs globalement, de l'écosystème global de la recherche, on va dire.
Sur cet écosystème global de la recherche, Nicolas Chavassiou-Louis, finalement, les chercheurs sont pensés comme de nouveaux chefs d'entreprise?
Ils sont invités à se penser comme tels. Ils sont invités à développer leur petite entreprise, comme le chantait Alain Bachung.
Avec ce fameux trio recherche, innovation, croissance qui est très présent depuis les années 80.
Oui, avec aussi cette intéressement financier des chercheurs aux retombées économiques de la recherche, qui était quelque chose justement qui apparaît à la fin des années 70. Le fait qu'un travail puisse être non seulement publié mais breveté, et que les royalties de ces brevets ne soient pas uniquement attribuées à l'organisme, à l'université, mais également pour partie aux chercheurs. Donc un intéressement direct, économique, à la valorisation économique des travaux.
Par rapport aux retombées de la recherche que vous évoquiez également à l'instant, François Guénin, c'est que la science peut, sur cette question de la balance bénéfice-risque, la science peut aussi comporter plus de risques que de bénéfices. Est-ce que vous aviez l'air de suggérer il y a quelques secondes ?
Oui. Alors, encore une fois, les motivations peuvent être, ça peut être de comprendre. Beaucoup de chercheurs sont motivés par la curiosité et le public demande aussi de la recherche pour comprendre, hein, pas seulement pour des retombées financières. Mais une fois que vous avez mis quelque chose sur la table, eh bien, plein de choses sont possibles. Et effectivement, l'analyse bénéfice-risque, pour moi, elle est impossible à faire dans le domaine de la recherche, parce qu'on attend des bénéfices à quelle échelle, est-ce que c'est à l'échelle de mois, à l'échelle de 500 ans, c'est très difficile de voir les retombées. Les risques aussi. Les risques peuvent être parfois très élevés. On reviendra peut-être sur les questions de recherche dites dangereuses ou préoccupantes. Et puis, encore une fois, si globalement la recherche sert au service de la croissance et que c'est la croissance qui actuellement fait l'augmentation de nos problèmes en termes de consommation d'énergie, consommation de matière et déchets, impact sur l'environnement à tout point de vue, eh bien, dans ces cas-là, là, c'est prévisible, la recherche a un impact négatif à long terme, enfin, sur la survie de l'humanité.
Nicolas Chavassieu-Louis, pour compléter ce que vient de dire François Gadère.
Non, rien de spécial.
Rien de spécial, très bien. Mais en tout cas, François Guénin, vous avez aussi de votre côté une expérience de tout ça, puisque vous avez rédigé un article qui permet de comprendre comment un matériau complexe peut être à la fois solide et liquide. Et cet article a eu les retombées auxquelles vous ne vous attendez pas spécialement.
Oui, c'est un exemple que j'aime bien donner pour dire que, effectivement, moi, je m'attendais. Pour moi, c'était une expérience, on va dire, très fondamentale de compréhension d'un phénomène complexe. Et effectivement, les premiers qui sont venus me voir, les seuls d'ailleurs qui sont venus me voir pour essayer d'en avoir des applications, ce sont des militaires d'un laboratoire que je ne connaissais pas à l'époque, qui travaillaient sur les impacts des obus sur l'acier, des tanks, et qui, à ces vitesses d'impact, l'acier devient à la fois solide et liquide. Et ils n'arrivaient pas à l'étudier d'un point de vue scientifique, et donc ils voulaient avoir mes lumières là-dessus.
Par rapport au technosolutionnisme, c'est aussi un point que vous abordez dans votre ouvrage, Nicolas Chavassieu-Louis. Dans quelle mesure, justement, ce technosolutionnisme scientifique aggrave-t-il la crise climatique ?
On le voit à l'œuvre aujourd'hui avec la montée du thème de la géo-ingénierie. Pas encore trop en Europe, fort heureusement, mais de manière massive aux États-Unis. On le voit aussi avec l'essor de l'intelligence artificielle, dont une des principales conséquences est l'explosion de la consommation énergétique. Ce qui se résume avec ce qu'on appelle souvent l'effet rebond, c'est-à-dire le développement d'une technologie et l'effort pour rendre cette technologie plus économe ou plus vertueuse pour l'environnement s'accompagne immanquablement, il n'existe pas de contre-exemple, d'un accroissement de l'utilisation de cette technologie.
Et sur, en effet, la climato-ingénierie, on voit qu'il y a des discussions récentes de la COP28 à Dubaï qui ont mis en avant comme des remèdes possibles au réchauffement climatique, avec par exemple l'ensemencement de la haute atmosphère par des particules fines qui réfléchissent le rayonnement du soleil. Je vous voyais François Guénin hocher de la tête quand on abordait ces questions-là également.
Oui, alors je vais d'abord rappeler quand même ce que c'est que le technosolutionnisme. Ça veut dire essayer de trouver des solutions techniques, techniques ou scientifiques, aux problèmes que la science ou la technique ont posés. C'est-à-dire, c'est un petit peu la méthode de faire appel à un pyromane pour l'embaucher comme pompier. C'est-à-dire, en fait, alors quel est le problème ? En fait, c'est que on est sur un système très très complexe, quand les solutions techniques permettent de régler une question, et dans un système complexe, on n'arrive jamais à ce que ça n'ait pas d'impact sur au moins une autre chose, un impact négatif sur autre chose. Alors typiquement, l'exemple parfait du technosolutionnisme, c'est quand vous parlez de développement durable ou de questions climatiques, la focalisation sur le ce qu'on appelle le développement durable, c'est-à-dire la focalisation sur la question purement climatique et carbone, c'est un moyen d'esquiver, de dire on va pouvoir trouver des solutions, et en fait ces solutions-là qui vont juste peut-être diminuer les émissions à gaz à effet de serre, ce qui est très important, nous rendent complètement aveugles sur les dégâts énormes que crée par ailleurs, sur les questions d'énergie, de matière et d'environnement, les techniques qu'on veut utiliser pour décarboner. Donc la réponse à la question de l'enjeu climatique, elle doit être globale et de régler les différents problèmes à la fois, et non pas de se focaliser là-dessus. Il y a ce qu'on appelle avoir des œillères liées à la décarbonation. Donc oui, tant que vous dites que la décarbonation, c'est un premier pas, très bien, mais si vous focalisez dessus et que vous ne parlez que de développement durable, comme ça, en disant on va faire continuer la croissance en décarbonant, moi j'appelle ça une escroquerie, parce que c'est à la fois pas faisable et surtout, ça a des impacts. Ce type de politique nous emmène droit dans le mur.
Voilà. Et pour tout comprendre sur la géo-ingénierie, la climato-ingénierie, j'invite nos auditeurs à podcaster notre épisode Géo-ingénierie. Peut-on mener le climat à la baguette? Avec au micro Valérie Masson-Delbotte, la grande climatologue. Alors, maintenant, dans quelle mesure la recherche est-elle entrée dans une logique productiviste et pourquoi remettre cette logique en question? Restez avec nous.
France Culture. La science CQFD. Natacha Triou.
De décroissance en décroissance. C'est notre sujet du jour avec nos deux invités, Nicolas Chevassu-Holoui et François Graner, en direct sur France Culture. Décroissance. On vient de voir que ce terme, forgé par le biologiste Jacques Testard, désigne une science qui ne serait pas animée par l'obsession de croissance, une diminution volontaire et maîtrisée de la recherche scientifique, un tri drastique parmi les recherches en cours qui vise en premier lieu à en éliminer toutes celles qui ne visent qu'à entretenir l'activité économique en ce qu'elle a de destructeur pour le monde. On peut donc maintenant parler de cette logique productiviste de la production scientifique, Nicolas Chevassu-Holoui, et on peut en effet parler de la question de l'édition scientifique.
Oui, parce que c'est par là que passe la diffusion des savoirs scientifiques. Et de manière fort curieuse, les communautés scientifiques se sont laissées déposséder sans guère de résistance de la maîtrise de ce moyen essentiel qui est l'édition scientifique. L'édition scientifique est aujourd'hui très majoritairement dominée par 4 à 5 grands groupes internationaux qui ont des impératifs de rentabilité privée, et les sociétés savantes qui historiquement éditaient les revues scientifiques existent toujours, mais sont hélas marginalisées. Les sociétés savantes qui avaient, elles, au contraire, n'avaient pas de but lucratif et ne visaient qu'à diffuser le savoir à travers les articles scientifiques. C'est quelque chose de tout à fait regrettable, qui a eu de nombreux effets secondaires néfastes dont on pourra parler par la suite.
Tout à fait, parce que là, à l'heure actuelle, la publication d'articles scientifiques s'impose comme le critère qualitatif privilégié. Mais alors pourquoi ça, c'est quelque chose de très discutable, justement?
En soi, c'est pas forcément discutable que la publication de l'article, il faut juste, historiquement, il y a eu un temps où on publiait des correspondances, ensuite il y a eu un temps où on publiait des livres. Je crois qu'un certain Charles Darwin s'est fait connaître pour un livre paru en 1859. Voilà, il y a eu différents modes de diffusion des résultats de la recherche. Aujourd'hui, c'est l'article. En soi, ça ne me paraît pas forcément poser de problème.
Hein. Non, mais la multiplication, justement, la quantité qui semble parfois primer sur la qualité, c'est aussi un des aspects que vous abordez dans ce dernier ouvrage, et également dans votre précédent ouvrage « Malscience ».
Oui, ça aussi, c'est un sujet mystérieux. Comment se fait-il que absolument tout le monde dans le milieu scientifique, hormis peut-être quelques chercheurs particulièrement enclin à la concurrence conviendra du fait qu'on publie trop, que cette concurrence est insupportable, qu'il faudrait publier moins parce qu'on n'a pas le temps de lire tout ce qui paraît. Ce constat est quasiment consensuel. Je ne sais pas ce que tu en penses, François. Voilà. Et comment se fait-il qu'en dépit de ce constat consensuel, rien ou presque ne change ?
Parce que, comme très souvent, chacun veut tirer son épingle du jeu, et c'est, même si c'est pas dans l'intérêt du collectif, dans la compétition, c'est souvent le cas. Il n'y a pas que de la compétition, on en revient un petit peu. Je voudrais quand même dire sur les articles scientifiques que l'intérêt, c'est si ça permet le débat. Et quand le système marche bien, la publication d'un article scientifique permet le débat avant, et l'article qui est produit est meilleur que si on ne publiait pas dans un cadre scientifique. Et parce qu'il y a des échanges avec des rapporteurs avant la publication. Maintenant, effectivement, quand le système est engorgé parce qu'il y a beaucoup trop de publications, elles ne peuvent pas être, on n'a plus le temps, même aussi de les rapporteurs n'ont pas le temps de les relire correctement. Donc voilà, il faut arriver à refroidir un petit peu le système. Je voudrais dire clairement que je ne parle pas au nom de mes tutelles ici, hein, je parle en mon opinion personnelle, mais là je vais parler de ma tutelle, le CNRS, en l'occurrence, fait partie des organisations qui, en 2012, ont signé une espèce de pacte de désarmement, de pacte de non-agression, on va dire, beaucoup d'organismes de différentes sortes ont signé un accord international, déclaration de San Francisco, disant que l'évaluation de la recherche ne devrait plus se baser sur la quantité d'articles produits et la quantité de citations qu'ils engendrent.
Connu aussi sous le nom de DORA, voilà, son petit nom.
DORA, Declaration on Research Assessment, déclaration sur l'évaluation de la recherche. Et donc, en pratique, c'était plein de bonnes intentions sur le fait qu'effectivement, il fallait remettre la qualité au cœur et pas la quantité. Ceci dit, on n'a pas vu beaucoup d'applications en pratique. Et justement, ce que je me suis aperçu, c'est que le CNRS, probablement dans les premiers, il y a 2-3 ans, l'a mis en pratique effectivement dans les évaluations. Et j'espère que c'est une tendance qui va se poursuivre. Parce que c'est effectivement, ça au moins, c'est un petit peu salutaire. Et donc, je ne demande qu'à observer avec un œil favorable.
C'est ça, Nicolas Chavez, ou Louis aussi, c'est que la publication d'articles scientifiques a un impact sur le financement des laboratoires et sur les carrières des chercheurs.
Oui. Ce qui en soi n'est pas critiquable. Comme toute activité exercée sur fonds publics, on peut comprendre qu'il y ait des formes d'évaluation de la réalité de ce travail. En soi, ça ne me paraît pas poser problème. Ce qui pose problème, c'est le rythme, le court-termisme et l'étroitesse des critères. Il me semblerait tout à fait préférable d'évaluer les chercheurs tous les 5, 6, 7 ans, etc., pour laisser un temps long à la recherche et le temps de se déployer. Mais ça, là encore, on est face à des choses tout à fait consensuelles dans le monde de la recherche. Et je pense que ce qui est intéressant en ce moment, dans la situation qu'on vit, c'est que les idées qu'on développe, François Graner et moi, autour de la décroissance, sont pas très très loin d'être majoritaires à la base de la recherche. Par contre, elles sont totalement inconnues dans les directions de la recherche. Et je pense que c'est un des enjeux de la période, de voir comment elles vont se traduire en politique scientifique mise en œuvre par les directions des universités et de la recherche.
C'est ça, c'est que c'est un point de vue partagé par les chercheurs, mais il faudrait que ça passe un cran au-dessus, François Graner.
Oui, alors je vais citer un exemple que j'aime bien. Je visitais des collègues dans un autre pays. Une de mes collègues me disait que pour avoir un poste de 5 ans, elle avait dû s'engager par écrit à avoir dans les 5 ans un article dans l'une des 3 revues scientifiques les plus prestigieuses, ce qui est évidemment très très difficile. D'abord parce que quand vous faites de la recherche 5 ans après, vous savez pas ce que vous allez avoir comme résultat. Et puis ces 3 revues étant extrêmement prestigieuses avec des taux de rejet de l'ordre de 1 à 10 ou 1 à 20, c'est effectivement s'engager par écrit et avoir un succès, c'est évidemment assez difficile. L'autre, dans ce même laboratoire, j'avais vu poster au mur, sur le panneau d'affichage, la direction du laboratoire qui disait: nous avions eu 102 articles l'an passé, donc l'an prochain nous devrions en avoir 106. Et ça m'a rappelé complètement, alors que c'est un labo d'un pays capitaliste, ça m'a rappelé complètement l'époque des plans soviétiques où le camarade Stakhanov avait des objectifs et qu'il les remplissait haut la main et en croissance constante, et tout le monde savait que la réalité n'avait pas grand-chose à voir avec les objectifs affichés.
Nicolas Chevasseau, lui.
Oui, on peut aussi... donc la métaphore soviétique est amusante. On peut aussi filer une métaphore sportive. Enfin, qu'est-ce qu'on dirait d'un athlète qui s'engage à gagner tant de, je sais pas quoi, moi, de critériums ou de championnats dans les années à venir? Ça n'a strictement aucun sens. Et d'autant plus, ça n'a d'autant moins de sens que l'activité de recherche est en réalité collective. Il est tout aussi important de confirmer un résultat, une observation, que de la formuler la première fois. Et c'est d'ailleurs un des problèmes du système collectif de récompense symbolique de la recherche, qu'il récompense toujours le premier et jamais le deuxième, le troisième, alors que du point de vue collectif, du point de vue de la solidité de l'édifice du savoir, il est tout aussi important de confirmer deux fois, trois fois, quatre fois une donnée ou une observation.
Alors, qu'est-ce qui pousse à cette concurrence? C'est que la recherche est considérée comme un outil de croissance, mais aussi un outil de puissance globalement, et un outil, c'est les trois aspects, volonté de puissance, volonté de contrôle technique et volonté de croissance économique. Ces trois aspects-là sont réunis, alors au sein du système capitaliste, mais pas nécessairement, c'est pas nécessairement lié au capitalisme. Tout système politique qui va avoir une volonté de puissance et une volonté de contrôle technique va avoir envie de développer la recherche et de pousser ses chercheurs à une certaine rentabilité, productivité. Et là, on est vraiment dans le système actuel dominant est vraiment dans cette logique-là. Et je pense que quand on réfléchit sur les questions de décroissance, c'est-à-dire on réfléchit à comment refroidir ce système-là, notamment parce qu'on voit que même s'il permet l'augmentation du profit global, il permet à la fois aussi une augmentation des inégalités et une augmentation des destructions d'environnement tous azimuts, le climat et d'autres, et que c'est à cause, et puis que c'est une vision à court terme parce qu'on consomme des matières à un rythme effréné que la planète ne tient pas. Donc tout ça fait que ce qui va être bon au point de vue des économistes et des politiques n'est pas bon pour la société, et c'est ça qu'il faut remettre en cause, et c'est la partie émergée de l'iceberg qu'on voit quand on regarde cette course aux publications.
Voilà. Cette course aux publications, puis comme vous dites, hein, par rapport à cette économie de la connaissance la plus compétitive au monde, discours qui est tenu par l'Europe depuis les années 90, et c'est quelque chose qu'on observe. On voit cette inflation d'articles au détriment de la qualité, et ça aussi, ça se traduit, Nicolas Chavassiou, lui, par une épidémie également de fraude scientifique. Enfin, on voit des expériences de non-reproductibilité, et plus grave encore, cette augmentation de la fraude.
Oui, ça j'en avais déjà parlé dans mon précédent bouquin « Malscience », qui est paru il y a 10 ans déjà, en 2016. Donc la situation s'est certainement pas aggravée, mais le point frappant depuis 10 ans, c'est le fait qu'il est de plus en plus difficile de distinguer des revues scientifiques sérieuses de revues scientifiques totalement frauduleuses. Et ça, c'est extrêmement préoccupant.
Pourquoi ? Pourquoi on peut pas justement, pourquoi il est de plus en plus difficile
parce
de distinguer...
Parce que sont apparus de grands éditeurs qui utilisent le fait qu'il faut rentrer un tout petit peu dans la technique. Jusque-là, dans le monde scientifique, on payait pour lire, c'est-à-dire qu'on s'abonnait à des revues via une bibliothèque. Depuis la diffusion du numérique et d'Internet, on paye pour écrire, c'est-à-dire pour publier. Les chercheurs payent pour publier. Ce qui est à l'inverse, réciproquement, la lecture est gratuite. Ce qui fait que des margoulins ont repéré cette combine pour faire créer des revues scientifiques qui publient à peu près n'importe quoi, puisque les chercheurs peuvent payer pour publier. Ça, c'est extrêmement préjudiciable à la solidité de l'édifice scientifique et à la confiance que l'on peut accorder. Il existe de bonnes revues dans lesquelles on paye pour publier, mais il en existe également de totalement bancales et semi-frauduleuses.
François Garnier.
Oui, ce qui permet de filtrer les résultats scientifiques, moi je ne parle pas de vérité en science, on parle de confiance dans les travaux, et la confiance se crée avec le temps. Il faut du temps pour savoir, avec le recul, si effectivement tel ou tel article est bon. Et plus on a de masse d'articles, et plus on est noyé dans des articles, plus c'est difficile d'établir une confiance et de mettre en avant effectivement les articles de bonne qualité.
On poursuit avec un autre volet de la décroissance. Quels sont les impacts directs de la recherche sur le climat et sur la biodiversité? Restez à l'écoute.
Slowdown de Ghost Funk Orchestra en direct sur France Culture, car nous parlons de slow science, plus exactement de décroissance, avec nos deux invités du jour, Nicolas Chevassiou-Louis, journaliste scientifique, et François Graner, biophysicien, chercheur au laboratoire matière et systèmes complexes CNRS à l'université de Paris-Cité. Pour résumer ce qu'on vient de dire, on vient de voir que l'édition scientifique n'est plus aux mains des chercheurs eux-mêmes. C'est devenu une industrie qui a sa propre logique. Elle a sa logique de rentabilité de coûts et de diffusion qui parfois privilégie les sujets plus spectaculaires, ce qui a une influence sur le débat scientifique. Et vous plaidez notamment, Nicolas Chevassiou-Louis, vous plaidez pour que les chercheurs se réapproprient les moyens de diffusion de leur savoir. Parlons à présent impact climat, environnement et recherche scientifique. Face à l'urgence climatique, aucune activité humaine n'échappe donc à cette question, et les scientifiques ne font pas exception. À quel point justement l'activité de recherche est-elle source de pollution et d'émissions carbone ?
Bon, ben ça c'est très simple. Il y a eu en France un mouvement qui s'appelle Labo 1.5. 1.5 faisant référence au 1,5 degré d'augmentation du climat que nous avons déjà franchi, mais que nous n'aurions pas dû franchir si nous avions pris au sérieux les impératifs de cette planète. Ce mouvement a concerné plus de la moitié des laboratoires publics français et s'est livré, à travers une méthodologie commune, à un effort d'évaluation de l'empreinte en matière de gaz à effet de serre de l'activité de recherche. Le résultat est simple, cette empreinte est environ 10 fois trop élevée si l'on veut tenir sérieusement cet objectif de 1,5 degré. Quels que soient les détails, alors ça va varier beaucoup suivant qu'on est dans un laboratoire de philosophie ou dans un laboratoire d'astrophysique, mais l'ordre de grandeur est 10 fois trop. La conclusion à tirer de cela, c'est que on ne peut pas diviser par 10 cette empreinte environnementale avec des petits gestes type prendre moins de l'avion, avoir un menu végétarien à la cantine et utiliser moins de plastique. Voilà. Ce n'est pas possible, il faudra tailler dans la réalité des recherches.
En effet, les résultats de cette initiative Labo 1.5, l'activité professionnelle d'un chercheur français, émet aujourd'hui 7,3 tonnes d'équivalent de CO2 par an. Pour rappel, pour respecter nos engagements climatiques, il faut réduire notre empreinte à 2 tonnes de CO2 par an d'ici 2050. Comment se décline, vous dites en effet, ça dépend des disciplines, des domaines, mais comment se décline l'empreinte carbone de la recherche française ?
Oui, ça va énormément dépendre des laboratoires. Le numérique joue un rôle considérable pour les laboratoires qui font beaucoup recours à la modélisation numérique. Les achats de matériel de laboratoire en matière de chimie ou de biologie qui sont d'énormes consommateurs de petits matériels en plastique jouent un rôle important. Partout, les voyages internationaux sont impliqués. Et enfin, n'oublions pas que le bâtiment, lié au fait que le parc immobilier de la recherche française est souvent très mal isolé, joue également un rôle considérable. Il n'y a pas un gros poste, il y a de nombreux postes sur lesquels il faudrait agir massivement, ce qui rend la situation particulièrement complexe.
Par rapport au voyage, je me tourne vers vous, François Garnier, parce que tout de suite, ça permet également d'envisager une démondialisation des sciences, finalement. Comment les sciences, justement, comment ces voyages pourraient être et devraient être drastiquement diminués ?
Alors, effectivement, ça paraît paradoxal parce que la science, c'est bien une activité qui s'est mondialisée avant les autres, c'est la science.
Et on voit que ça fonctionne, par exemple, en temps de Covid.
Et effectivement, même les scientifiques ont été capables de s'unir, même entre des pays en guerre, et de pouvoir continuer à collaborer entre eux, déjà au XVIIIe siècle. Donc, effectivement, il y a un excès des voyages en pas seulement en avion, enfin de la mobilité en général, qui est là aussi, il y a une tendance à revenir, il y a des déclarations disant qu'il faut arrêter d'évaluer les gens en fonction du nombre de conférences invitées qu'ils font à l'étranger, et que ça ne doit plus être un indicateur, parce qu'effectivement, je connais beaucoup de gens qui ont traversé l'Atlantique pour une heure de conférence, parce que c'était capital pour leur CV, donc pour leur évaluation.
On continue. Je ne voulais pas vous interrompre.
Mais encore une fois, moi, les choses sur lesquelles j'insiste, c'est que la recherche, en tant qu'activité qui utilise beaucoup de hautes technologies, a effectivement beaucoup d'impact sur les matières et l'énergie et la production de déchets. Mais c'est surtout son impact indirect. Il y a peu d'activités qui ont un impact indirect tellement plus grand que l'impact direct. C'est-à-dire que vous pourriez faire, même vous pouvez avoir de la recherche qui se fait avec papier crayon et sans bouger de son labo et sans prendre l'avion, qui peut avoir un impact sur la croissance énorme et qui, au total, va avoir un impact sur la survie de l'humanité extrêmement négatif.
Je vais rebondir sur ce que dit François parce que, on dit, d'accord, la recherche, ça émet 10 fois trop de gaz à effet de serre. Bon, mais en quantité, c'est pas énorme, en fait. C'est ridicule par rapport à la sidérurgie, la cimenterie, etc. Donc on pourrait dire, pourquoi on s'embête avec ça? Et puis on pourrait argumenter en disant, après tout, est-ce qu'on va rechercher les émissions de gaz à effet de serre des hôpitaux, etc. On peut dire qu'il y a une exception, parce que c'est très important, la santé c'est très important, et la recherche, nouveau savoir, c'est très important. Oui, on pourrait dire ça, sauf que il y a cet argument qu'il y a l'effet indirect de démultiplication de la croissance par la recherche. Et ça, c'est vraiment absolument crucial à bien comprendre. C'est pas juste une question de comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre d'un laboratoire. En absolu, elles sont pas énormes, mais les effets indirects sont considérables.
Ces impacts indirects, finalement, vous faites appel... Enfin, vous pensez à la recherche appliquée, finalement, aux technologies
Globalement, tout l'ensemble de l'écosystème de la recherche nourrit la croissance et réciproquement, pour deux raisons différentes. Alors, d'abord, la croissance, plus il y a d'argent disponible, plus ça permet de financer des recherches. Mais la recherche, c'est ça qui permet de financer, qui permet à la croissance de trouver des nouveaux objets à vendre, des nouvelles idées, des nouveaux concepts, de démultiplier les possibilités de la classe possédante. Et ça, toutes les disciplines sont confondues. La sociologie, la psychologie, la géographie, l'anthropologie ont toutes contribué à la croissance d'une manière ou d'une autre. Et en même temps, idéologiquement, l'idéologie de la croissance nourrit l'idéologie du progrès scientifique. L'idéologie du progrès scientifique nourrit l'idéologie de la croissance. Dans les deux, c'est l'idée on n'a pas de limite et qu'on peut aller de plus en plus loin sans fin. Et que l'humanité doit le faire.
Voilà. Nicolas.
J'aurais juste une anecdote qui illustre le propos de François. On parlait en début d'émission d'Alexandre Grothendieck, un des mathématiciens qui poursuit aujourd'hui son travail de géométrie algébrique extraordinairement complexe. C'est la branche la plus abstraite des mathématiques. C'est Laurent Laforgue, médaillé Fields, et il travaille chez Huawei. L'équipementier, il a choisi depuis quelques années de travailler chez Huawei. Je pense que c'est la meilleure illustration possible du fait que les mathématiques les plus abstraites et les plus complexes servent directement à la croissance économique.
C'est vrai que les mathématiques les plus abstraites peuvent contribuer à l'invention du trading haute fréquence, autre prodige des mathématiques financières. On poursuit sur cette question des enjeux climatiques du point de vue des chercheurs avec notre reportage du jour. De même que la science participe à la croissance économique déteint elle aussi sur la manière dont est pensée la recherche scientifique. Et cette dernière se retrouve à devoir, pour sécuriser des financements, faire la promesse de découvertes toujours plus fantastiques que les précédentes. On en parle dans notre reportage et c'est avec vous Loïc Dutoit, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous vous êtes rendu à Grenoble pour parler du CERN en tant qu'illustration parfaite d'un phénomène plus global. Comment les organismes de recherche scientifique sont-ils pris au piège de la démesure ?
Il m'arrive régulièrement de ressentir dans mes reportages que certains scientifiques vivent avec une contradiction intérieure. Une contradiction dont certains souffrent d'ailleurs. D'une part, la majeure partie d'entre eux sont particulièrement conscients de l'ampleur des conséquences du réchauffement climatique. Et d'autre part, ils voient bien comment leurs recherches ou les résultats de ces recherches peuvent éventuellement participer à l'aggravation de cette situation. C'est dans ce contexte que des collectifs de scientifiques protestataires ont vu le jour ces dernières années. Laurent Husson est membre de Scientifiques en Rébellion. Il est directeur de recherche au CNRS à l'Institut des Sciences de la Terre à Grenoble. Mais il a bien précisé qu'il s'exprimait en son nom propre durant ce reportage. Et surtout, Laurent Husson est co-auteur d'un article intitulé « Le CERN ou les impasses démocratiques d'une économie de la promesse » à paraître en mars dans la revue Société Contemporaine. Nous sommes ici sur la presqu'île Giant à Grenoble où se trouvent tout un tas de laboratoires de recherche, notamment en microélectronique mais aussi en physique atomique. Et on est entouré par des montagnes qui sont votre objet de recherche premier. Pour commencer, je voulais savoir pourquoi vous vous étiez mis à faire de la recherche et puis à quel moment vous vous êtes rendu compte que peut-être il fallait ralentir cette recherche scientifique.
Moi, je pense que j'ai été très naïf sur la recherche pendant longtemps. La recherche que je pratique, elle s'intéresse à une science qui est un peu muséographique, raconter l'histoire de la Terre, raconter la beauté du monde et comprendre son fonctionnement. Et dans mon esprit, c'était ce qu'était la recherche. Et puis, en fait, probablement en péchant par naïveté, c'est tardivement que j'ai compris que la recherche, dans l'esprit de bien des gens, et surtout probablement dans l'esprit des politiques, c'est pas du tout ça, en fait, c'est une recherche appliquée, et que cette recherche, elle a des conséquences, elle est politique, elle est située, et les conséquences, on ne devrait pas pouvoir les ignorer.
Tout à l'heure, donc, en marchant un peu plus loin sur la presqu'île, on est passé devant le synchrotron, qui est un accélérateur de particules. Mais là, aujourd'hui, on va parler d'un autre accélérateur de particules et puis de l'entité qui chapeaute cet autre accélérateur de particules, qui est donc le CERN. Et vous, vous trouvez que le CERN illustre parfaitement tous les écueils d'une recherche scientifique qui sert la croissance économique.
Le CERN, c'est probablement ce qui pourrait caractériser le mieux ce que n'est pas la décroissance de Nicolas Chevassieu, lui. C'est pour ça que c'est un cas d'école qui est intéressant, de savoir pourquoi et comment on en est arrivé là.
Quand vous dites comment on en est arrivé là, c'est en particulier en lien avec ce qui va arriver, c'est-à-dire les projets futurs et notamment le futur Circular Collider, plus connu sous le nom de FCC.
Oui, c'est exactement ça. Cette fois-ci, on parle d'un accélérateur de 92 km de long, hein, sous le bassin de Genève. Ça veut dire que le CERN peut se trouver légitime à réclamer la préemption de telles ressources économiques, puisqu'on parle quand même de 30 milliards d'euros, et puis environnementales, puisque la consommation énergétique de cet engin est complètement délirante. Hein. C'est revu à la baisse régulièrement, mais on partait du dimensionnement d'un petit réacteur nucléaire uniquement pour les expériences prévues.
Derrière ce projet, il y a quand même un certain nombre de questions scientifiques fondamentales qui sont mises en avant et auxquelles ce projet doit peut-être pouvoir répondre, notamment en lien avec des recherches sur la matière noire ou la disproportion aussi entre la quantité de matière que nous avons ou antimatière. Mais vous, ce que vous mettez en avant, c'est que ce ne sont même plus tellement les premiers arguments qui sont développés par le CERN pour justifier de ce projet gigantesque.
Les promoteurs du FCC, quand ils veulent justifier de la nécessité de création du FCC, vont d'une part plaider pour une recherche fondamentale, éthérée, neutre, loin de toute application. Et si on leur oppose que le point de vue théorique, à la différence de la programmation du LHC, dans le cas du FCC, elle est un petit peu légère, à ce moment-là, instantanément, les communicants du CERN vont rebondir sur les applications. Et le CERN de revendiquer la paternité de l'Internet, et pourquoi pas les voitures autonomes pour l'avenir, et ainsi de suite. Du coup, cette fois-ci, on part complètement dans la recherche appliquée.
Si ces organismes de recherche en viennent justement à être beaucoup dans des aspects de communication, mais aussi à devoir justifier de leur recherche via une dimension technologique, est-ce qu'on peut vraiment leur imputer la faute à ces organismes de recherche alors que s'ils ne font pas ça, probablement qu'ils ne se feront pas financer?
Oui, bah, je pense que vous avez complètement raison. En fait, c'est une dérive de la science contemporaine. Malgré tout, je suis scientifique et je continue à aimer la science et je ne cherche pas à la supprimer. Il faut lui redonner toute sa place. Je crois que la communication, elle a un rôle fondamental parce que les personnels se posent énormément de questions. Et je pense que c'est important, il y a un mal-être chez les personnels scientifiques qui sont entre leur sensibilité personnelle, qui vont rendre certains peu enclins à vouloir participer à la destruction du monde par la science, Et puis l'injonction à toujours utiliser le superlatif comme le CERN. Hein. Le CERN, c'est la quintessence de superlatif. Tout est toujours plus grand, plus puissant.
De vos réflexions et des différents papiers que vous avez déjà pu écrire sur le sujet, est-ce que vous avez peut-être pensé à un certain nombre de solutions face à ce problème ?
En fait, je pense qu'il y a deux points à mentionner. C'est le premier point, c'est qu'actuellement, on a tendance à confondre la science avec la production de données. On est vraiment dans l'ère de la donnée, qui plus est adossée à une technophilie. On peut le voir avec la quantité d'appels d'offres à financer l'instrumentation sans avoir de justification scientifique, à part d'avoir un instrument plus puissant, plus performant. Et puis dans la communication du CERN, si on écoute les émissions de Radio France qui ont été faites sur le projet FCC ou sur le CERN, on ne fait que parler de puissance, on ne fait que parler de gigantisme, mais on parle très très peu de science. Donc ça c'est pour au sujet de la mesure, de la production de données. En fait, ça n'a pas toujours été le cas. La science, c'est pas forcément ça. La science, elle a pour but de comprendre l'univers, de comprendre le monde dans lequel on vit, de le décrire, donc le mesurer certes, mais de l'analyser et de le comprendre. Et j'ai envie de faire une citation de GB, hein, « On arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste ». Et je pense que ça a vraiment un sens. Je crois qu'on a une quantité de données, de mesures qui pourraient largement nous occuper à la condition de faire de la vraie interdisciplinarité. J'ai l'impression qu'il faut... arrêter que chaque chercheur, chaque chercheuse, chaque personnel de recherche pense qu'il apporte une petite brique et que l'édifice de la science se construira de cette façon-là, par l'ajout de petites briques. À un moment, il faut probablement dézoomer et il faut que chacun devienne maître d'œuvre de l'édifice de la science pour ajuster ses briques. Reconsidérer la science et la réintroduire dans le champ politique serait un beau projet d'une décroissance heureuse, utile à la société, mais qu'on ne pourra mettre en œuvre que s'il est acté que les chercheurs doivent mener une réflexivité, et les institutions aussi, et surtout les institutions. Ça permettrait de remettre la science dans un champ intellectuel, sociétal, qu'elle a perdu depuis bien longtemps.
Merci Loïc Dutoit. Nos reportages loin du studio pour découvrir la science telle qu'elle se fabrique au quotidien, ses témoignages, tout ça c'est notre collection La Science au Labo et c'est à retrouver sur votre appli préférée, l'application Radio France bien sûr. François Graner, une réaction à l'écoute de ce reportage ?
Je dirais que le CERN et ses projets d'agrandissement, c'est très très beau sur le papier, c'est des gens qui ont beaucoup travaillé bien collectivement et qui ont planifié pour tout le 21e siècle le plus gros chantier d'Europe avec une mentalité du 20e siècle. Et je pense que c'est avec des technologies qui sont destinées à être à se fracasser sur la réalité et notamment les problèmes de manque de matière qu'on va avoir et de création de déchets. Je pense que ça serait très moderne et un très beau signal de dire qu'on accepte les limites et qu'on renonce à la volonté de puissance, autant scientifique que dans les autres domaines, et qu'il vaut mieux le faire de façon choisie et pas subie, parce que justement les limites des matières pourraient très bien signer l'arrêt de ce chantier et de ces différentes phases d'ici les prochaines décennies. C'est difficile de prévoir, et l'exemple des États-Unis est plutôt refroidissant, puisque l'équivalent qu'ils ont voulu construire il y a une trentaine d'années, eh bien ils l'ont arrêté après 2 milliards de dollars de dépenses. C'est une vingtaine de kilomètres de tunnels qui peuvent maintenant servir soit à amuser des enfants, soit à faire pousser des champignons peut-être, mais enfin en tout cas pas à faire des... Ils ne font pas des projets de haute technologie.
Nicolas Chavassiot-Louis.
Début d'émission, on parlait de Grothendieck et la conférence de Grothendieck posait la question combien de temps allons-nous pouvoir nous permettre de faire des recherches aussi abstraites que celles portant sur la physique des hautes énergies et des particules. Combien de temps allons-nous nous permettre de nous demander de quoi est fait un boson de Higgs? S'agit-il vraiment de l'enjeu des prochaines décennies dans un monde qui va se réchauffer d'au moins plus 4 degrés pour ce qui concerne la France, qui fait face à une crise d'extinction de biodiversité, etc. Et j'en passe. Est-ce que c'est ça l'urgence Est-ce que on peut se permettre ce genre de choses? C'est la question clé qui traverse les scientifiques aujourd'hui. J'étais très sensible au reportage de Loïc Dutoit qui soulignait les contradictions intérieures des scientifiques. Pour moi, c'est ce qui est très frappant. Mon livre est sorti il y a 4 mois. Je l'ai présenté dans de très nombreux laboratoires et j'ai toujours un excellent accueil des chercheurs eux-mêmes. La difficulté, et j'y reviens, c'est la hiérarchie de la recherche qui reste arc-boutée sur l'idée que la recherche est au service de la croissance. Mais ça va changer. Ça va changer, j'en suis certain.
Est-ce que ce discours, justement, sur la décroissance, peut-il être perçu, alors non pas du côté des chercheurs, ou ni même de la hiérarchie, mais du côté du grand public, comme un discours anti-science, à une époque où, justement, aussi dans le contexte actuel, où la science est aussi très attaquée?
Oui, alors ça, c'est extrêmement simple à répondre. On est toujours à la décroissance. Ah oui, c'est ce que fait Trump. Alors non, évidemment non. Il y a la même différence que entre, pour utiliser un vocabulaire militaire, entre une retraite en bon ordre et une débâcle. La décroissance, c'est une réduction organisée et planifiée de l'activité. Ce n'est en aucun cas de sabrer et de tout détruire à la manière Trump. Les choses sont extrêmement claires, il n'y a aucune confusion à voir.
François Garner, sur cette question.
Eh bien, moi, s'il y a des petits désaccords entre Nicolas Chevassiou et moi, c'est que je pense que c'est très difficile de trier des recherches, les retombées étant très imprévisibles. Si vous voulez pouvoir lutter efficacement contre tel ou tel problème, il faut avoir fait des recherches en amont qui sont extrêmement loin, il faut avoir un matelas de connaissances globalement. Ça, c'est difficile de planifier exactement, et c'est à mon avis, c'est stérile, d'orienter la recherche dans une direction. Je verrai les choses de façon différente. Je pense que avant de se demander quelles recherches on va trier et comment trier, même si certaines peuvent paraître vraiment aberrantes directement, la plupart, il faut d'abord changer le paradigme, changer le type de société dans lequel on fait ce cadre de recherche. Et on change pas une maison, on change pas la décoration avant d'avoir, si les fondations sont pas solides et doivent être faites. Donc là, on a notre problème, encore une fois. Les problèmes qu'on voit de la recherche, c'est la partie émergée, des problèmes structuraux de notre société qui cherchent absolument une volonté de puissance technique. Et c'est ça qu'il faut remettre en cause. Si on accepte les limites, on reformule l'ensemble des activités dedans, la recherche comme les autres, et de façon cohérente. Et là, on peut effectivement se dire qu'on respecte les limites environnementales, les décroissances des inégalités, etc.
Nicolas Chevassiou, sur cette question des domaines de recherche et de ces orientations, quand même, par rapport à la recherche médicale, ça semble quand même être une évidence que ce sont des choses qui sont bienfaitrices pour l'humanité.
Il faudrait aussi s'interroger sur les raisons, par exemple, de la dégradation de l'espérance de vie à la naissance dans ce pays. L'augmentation de la mortalité infantile. L'augmentation de la mortalité infantile en France est liée, c'est un rapport de l'INSERM, à l'augmentation des inégalités. Voilà, c'est pas un problème de recherche biomédicale, c'est un problème d'inégalité. Et on en revient à ce qu'on a dit à plusieurs reprises, c'est qu'une politique de décroissance est aussi avant tout une politique de lutte contre les inégalités.
Mais bah, voilà, c'est la question en effet de la dégradation de notre système de soins que vous soulignez à juste titre. Mais c'est peut-être, et ce sera notre mot de la fin, c'est peut-être à décorréler également quand même de la recherche médicale, la recherche fondamentale dont je parle par exemple. Nicolas Chevaux-Louis, vraiment pour conclure. François Graner.
Oui, si je prends la parole parce que je dirais que la recherche médicale, c'est justement le cheval de Troie de la croissance. Ça paraît complètement inattaquable. En fait, c'est un moteur d'inégalité. La robotisation des hôpitaux est corrélée à la création des aires médicaux par ailleurs. La recherche médicale est au service des dominants. Et à mon avis, c'est pas du tout la solution.
Ah, malheureusement, mais ce serait la question justement des soins médicaux et des dominants qui serait encore un débat à poursuivre. Et malheureusement, nous n'avons plus le temps puisque là, il est temps de rejoindre Alexandra Delbault qui, comme chaque jour, nous propose sa chronique avec science. Et là, tout de suite, on part à la chasse aux exoplanètes. Merci à vous deux.
Merci beaucoup.
Comment débusquer les planètes errantes? On les appelle aussi flottantes ou orphelines. Ce sont des mondes sans soleil, des planètes qui ne sont attachées à aucune étoile. Elles ont vraisemblablement été expulsées de leur système d'origine et errent seules dans l'espace. Pour l'instant, quelques dizaines de ces objets seulement sont identifiés avec une quasi-certitude et il y en aurait beaucoup plus dans notre voisinage galactique et même dans l'univers tout entier. Le problème, c'est qu'elles sont invisibles. Une planète, c'est un corps sombre, ça n'émet pas de lumière, et donc sans étoiles à côté pour les éclairer, on ne peut pas les voir directement. Laurent Heyer est maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Genève. Il est l'un des coordinateurs scientifiques de la mission Gaïa.
Ces planètes sont très difficiles à étudier car elles sont très peu lumineuses, pas détectables directement par l'instrumentation, par des télescopes. Donc il faut prendre d'autres méthodes indirectes pour les détecter. C'est un peu le même problème que pour détecter une exoplanète. Comme on ne voit pas généralement l'exoplanète, beaucoup d'exoplanètes sont détectées parce qu'elles font une petite éclipse de l'étoile, où l'éclat de l'étoile diminue légèrement, ou bien par vitesse radiale, où l'étoile bouge un peu dû à la rotation de la planète autour de l'étoile. Alors, quand on a une planète orpheline ou errante, le problème, c'est qu'elle est toute seule, elle est généralement, par définition, pas attachée à une étoile, elle n'orbite pas autour d'une étoile. Et la méthode pour la détecter, c'est au travers d'un événement de micro-lentille.
Une micro-lentille gravitationnelle de son nom complet. C'est un effet visuel produit par un objet massif. À cause de sa gravité, le corps courbe la lumière et déforme ce que l'on observe. Concrètement, il faut une configuration très particulière. On regarde une étoile lointaine et quand la planète errante passe pile devant, sa présence rend momentanément l'astre plus brillant. La planète agit quelque sorte comme une loupe et il faut donc beaucoup de chance pour pouvoir l'observer. La durée de l'événement est extrêmement courte, il faut regarder le ciel au bon moment et surtout avec plusieurs instruments pour confirmer ce que l'on voit. C'est cette observation exceptionnelle qui est rapporté dans cette nouvelle étude parue dans la revue Science, une détection depuis des télescopes au sol combinée à des données du satellite spatial Gaïa. Et c'est ce qui a permis pour la première fois de localiser et de peser une planète errante.
La masse de cette planète est de 20% de la masse de Jupiter. Donc on voit que c'est la masse est un peu en dessous de la masse de Saturne. Et c'est un peu ce qui était pensé par des modèles, que ces objets, ces planètes errantes, étaient un peu en dessous de la masse de Saturne. Et donc là, on confirme ça. C'est à 10 000 années-lumière, donc la configuration est la suivante. On a la Terre, on est à peu près à 27 000 années-lumière, on est au centre galactique, et donc elle est un peu entre deux. Et pourquoi on a détecté cet objet dans la direction du centre galactique? C'est parce qu'on a beaucoup d'étoiles. Donc la probabilité qu'on a de détecter un événement de micro-lentille est plus grand quand il y a beaucoup d'étoiles d'arrière-plan.
Ces planètes solitaires sont probablement extrêmement nombreuses. Les modèles suggèrent qu'il pourrait y avoir autant de planètes errantes que d'étoiles dans l'univers. Les systèmes planétaires éjectent certainement souvent certains de leurs compagnons au cours de leur histoire, mais on ne sait pas encore quand ni comment. Est-ce au moment de leur formation ou plus tard, à la suite de perturbations gravitationnelles? C'est ce que les scientifiques espèrent pouvoir trancher avec davantage d'observations aussi précises que celles-ci. Et pour cela, il faudra donc provoquer un peu la chance. Des réseaux de télescopes comme KMTNet ou le programme Hoggle scrutent en permanence le ciel à la recherche d'événements de micro-lentilles et développent à présent des systèmes de détection automatique pour ne rater aucun passage de planète orpheline. Mais comme on l'a dit, les télescopes au sol ne suffisent pas, il faut aussi un télescope spatial. Avec Gaïa, c'était vraiment un coup de chance car il n'est pas pilotable, il balaye le ciel selon une trajectoire prédéfinie. En revanche, le futur télescope spatial Roman pourra être pointé rapidement vers une zone précise du ciel. Dès qu'un événement est détecté, il sera lancé en 2027. Ces mondes jusqu'ici invisibles se dévoileront bientôt sous nos yeux.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Alexandre Morales, Joseph Schlegel. À la réalisation, c'était Margot Page. À la technique aujourd'hui, Marie-Claire Oumabadi. Et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.